Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes bien sur Radio Orient. Il est 17h, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi. Sommaire de ce point, actualité, l'Arabie Saoudite, le Qatar et Oman ont œuvré pour dissuader le président américain Donald Trump d'attaquer l'Iran, le mettant en garde contre de graves répercussions dans la région, selon un haut responsable saoudien. Sur la situation à Gaza, l'émissaire américain Steve Witkoff a annoncé le début de la phase 2 du plan américain visant à mettre fin à la guerre dans l'enclave. Et c'est notre dossier du jour à suivre. En France, les 52 agriculteurs de la Confédération paysanne arrêtés hier après être entrés dans une annexe du ministère de l'Agriculture sont sortis de garde à vue sans poursuite judiciaire. Et on débute ce rendez-vous d'information par l'actualité au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite, le Qatar et Oman ont œuvré pour dissuader le président américain Donald Trump d'attaquer l'Iran, le mettant en garde contre de graves répercussions dans la région, selon un haut responsable saoudien. Et pour rappel, plus de 3400 manifestants ont été tués en Iran et plus de 10 000 arrestations ont eu lieu entre le 8 et le 12 janvier, selon l'ONG Iran Human Rights. Et sur la situation à Gaza, l'émissaire américain Steve Witkoff a annoncé le début de la phase 2 du plan américain visant à mettre fin à la guerre dans l'enclave. Et c'est notre dossier du jour à suivre. Au Liban, l'armée israélienne a annoncé avoir mené des frappes contre des cibles du Hezbollah dans plusieurs parties du pays. Rappeler les habitants d'un village du sud-est à l'évacuer. Et toujours au Liban, la justice a engagé des poursuites contre 4 personnes, dont un franco-libanais accusé d'avoir enlevé pour le compte du Mossad un général à la retraite qui avait disparu en décembre. En Libye maintenant, un charnier contenant 21 cadavres de migrants provenant des pays d'Afrique subsaharienne a été découvert dans le nord-est du pays, selon des médias locaux. Dans le reste de l'actualité internationale, la Russie a estimé ce jeudi que les opportunités se réduisent pour l'Ukraine si elle souhaite trouver une issue négociée à la guerre après plusieurs semaines de pourparlers peu fructueux initiés par Washington fin 2025. Et une mission militaire démarre ce jeudi au Groenland, un territoire arctique sous souveraineté danoise et convoité par le président américain Donald Trump au lendemain d'une rencontre à Washington entre responsables américains, danois et groenlandais qui a débouché sur un constat de désaccord fondamental. Une mission ordonnée en raison des menaces russes et chinoises dans l'Arctique, selon le ministère allemand de la Défense. Dans un tout autre volet, le pape Léon XIV a reçu ce jeudi en audience privée au Vatican une vingtaine de proches des victimes de l'incendie meurtrier de Crans-Montana qui se sont ensuite rendus au siège du gouvernement italien. Et enfin, en France, les 52 agriculteurs de la Confédération paysanne arrêtés hier après être entrés dans une annexe du ministère de l'Agriculture sont sortis de garde à vue sans poursuite judiciaire. C'était votre rendez-vous d'information. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient, le dossier du jour. Washington a annoncé l'entrée dans la deuxième phase du plan américain visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza. Et cela intervient après l'annonce d'un accord des mouvements palestiniens sur la formation d'un comité transitoire de gouvernance. On fait le point avec vous, François-Xavier de Calonne.
Oui, nous annonçons le lancement de la phase 2 du plan en 20 points de Donald Trump, passant le feu à la démilitarisation, à la gouvernance technocratique et à la reconstruction de la bande de Gaza. Des mots sur X de l'envoyé spécial des États-Unis, Steve Witkoff. Le cessez-le-feu est entré en vigueur le 10 octobre. Le président états-unien avait alors présenté une feuille de route. Elle prévoyait la naissance d'un comité de transition, un comité censé administrer le territoire palestinien sous la supervision d'un conseil de paix. Un conseil présidé par, devinez qui ? Donald Trump. L'Égypte, médiatrice dans le conflit, annonce qu'un consensus a été trouvé entre toutes les parties sur la composition de ce comité palestinien. Un comité de 15 membres, l'ancien vice-ministre palestinien Ali Chass, doit en prendre la tête.
Et devant la presse, le ministre égyptien des Affaires étrangères a dit espérer, lui, que cet organe serait déployé rapidement dans la bande de Gaza.
Et oui, l'enclave palestinienne reste en proie à une très grave crise humanitaire. Il s'agirait de gérer la vie quotidienne et les les services essentiels. Les discussions au Caire ont eu lieu entre une délégation du Hamas et des médiateurs égyptiens, ainsi qu'entre les dirigeants de partis palestiniens. Alors, dans un communiqué commun, le Hamas, le djihad islamique et d'autres mouvements palestiniens déclarent soutenir la formation du comité. Ils s'engagent à lui permettre d'assumer pleinement ses missions. La présidence palestinienne, basée à Ramallah, a elle aussi apporté son soutien à cet organe. Les discussions sur cette deuxième phase du cessez-le-feu ont longtemps patiné dans ce contexte de cessez-le-feu très fragile. Alors cette phase du plan Trump prévoit aussi le désarmement du Hamas. Et là, eh bien, cela ne passe pas pour le groupe islamiste. Il refuse ce désarmement. Cette phase prévoit aussi le retrait progressif des troupes israéliennes du territoire gazaoui et le lancement de sa reconstruction. Ces troupes qui contrôlent encore environ la moitié du territoire. Alors sur ce dossier, sur cette deuxième phase du plan Trump, sur sa viabilité, je vous propose d'écouter David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
Oui, elle est essentielle et elle risque d'être plus complexe encore que la première, puisqu'elle prévoit, dans le fameux plan en 20 points, elle prévoit notamment le désarmement du Hamas et la démilitarisation de l'enclave. Effectivement, elle a été annoncée officiellement par Steve Witkoff, parce que le président américain, en fait, voulait accélérer le mouvement. Il y avait un point de blocage, mais finalement, qui a été surmonté et à la demande expresse du président américain, c'est le fait que les Israéliens n'ont pas encore récupéré la dépouille du corps de Ron Jvili, le dernier otage décédé, qui n'a pas été encore rendu. Et théoriquement, la clôture de la première phase ne pouvait intervenir qu'à l'issue de la remise de tous les otages vivants et décédés. Mais le gouvernement israélien a dû accepter, prendre acte du fait que le président américain voulait effectivement passer désormais à la deuxième phase, avec la mise en place justement d'un comité national provisoire d'administration de par des technocrates qui ont été sélectionnés. On parle de 15 technocrates et un comité qui serait dirigé par Ali Shaatz, un Palestinien originaire de Khan Younes, mais qui était un ancien vice-ministre de l'autorité palestinienne. Et donc là aussi, c'est un choix du président américain qui a imposé quand même au premier ministre israélien qui ne voulait pas entendre parler de l'autorité palestinienne. Alors s'il n'y est pas en tant que tel, effectivement, il en relève quand même indirectement. Donc on voit que la pression américaine est maximale parce que justement le président américain ne veut pas qu'il y ait une hypothèque sur son plan.
Sachant que le Hamas, le djihad islamique et d'autres mouvements palestiniens ont dit soutenir la formation de ce comité. Ils disent même s'engager à lui permettre d'assumer immédiatement ses missions.
Oui, effectivement. Alors cela dit, dans la déclaration de Steve Witkoff, il y a explicitement, il est fait mention que le Hamas est tenu de respecter ses obligations, dont celle de la libération, de la restitution de la dernière dépouille, et que tout manquement, je cite, à ses obligations entraînera de graves conséquences, sans préciser lesquelles. Donc c'est on va dire que la pression est maintenue quand même, mais il y a l'horizon effectivement de la mise en place d'un comité. Alors c'est le National Committee for the Administration of Gaza, comité national de l'administration pour Gaza, donc sous la direction d'Ali Shaatz, avec la quinzaine de technocrates, et puis supervisé par un conseil de la paix, évidemment dirigé en surplomb par le président américain, et assisté par Nikolai Mladenov, un diplomate bulgare qui a été choisi justement pour assurer la direction du conseil d'administration sous la tutelle de Donald Trump, évidemment. Et on peut noter que Tony Blair, qui était pressenti, n'a pas finalement été sélectionné, même s'il a été écarté effectivement du conseil d'administration, même s'il fera vraisemblablement partie du conseil exécutif avec Witkoff et Kushner. Donc on voit que c'est une mécanique complexe, une architecture un peu complexe, mais qui est le reflet de la situation sur le terrain.
Et cette deuxième phase, elle renforce le cessez-le-feu, ou alors pourrait-elle au contraire le fragiliser si certains éléments n'étaient pas respectés?
Elle le renforce a priori, parce qu'on voit que d'ailleurs les Israéliens n'ont pas eu le choix. Ils ont été obligés de donner suite à la pression américaine, même s'ils ont précisé de leur côté que Tsahal demeurerait sur la fameuse ligne jaune, qui est la première ligne de retrait. N'irait pas sur la deuxième, la fameuse ligne orange-rouge, et que ce maintien sur cette ligne jaune initiale serait conditionné justement au désarmement du Hamas, qui pour l'instant n'est pas immédiatement actualisé.
Et c'était David Rigoulet-Rose, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était le dossier du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis, et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient. Place maintenant à la page sport spéciale Cannes avec Mounir Karmouri. Bonjour Mounir.
Bonjour Nawel.
Hier, vous étiez à l'Institut du Monde Arabe pour suivre en direct ces demi-finales de la Cannes. Que retenir de cette soirée?
Une ambiance exceptionnelle, vraiment. À l'Institut du Monde Arabe, la Cannes s'est vécue comme dans un stade, des supporters venus de tous horizons, des familles, des chants, des drapeaux, une tension permanente. Sur le terrain, deux scénarios forts, la victoire maîtrisée du Sénégal face à l'Égypte grâce à un éclair de Sadio Mané, puis le suspense total avec la qualification du Maroc au tir au but face au Nigeria, porté par un Yassine Bounou héroïque. Une soirée intense, donc populaire et profondément fédératrice, qui montre que cette CAN 2025 se vit aussi pleinement en France.
Et justement, le gardien marocain Yassine Bounou a été décisif de bout en bout. Que représente sa performance dans cette CAN 2025?
Yassine Bounou a tout simplement incarné le Maroc dans ce match, décisif dans le jeu, impérial dans les airs et surtout infranchissable lors de la séance au tir au but. Il a été le dernier rempart, celui qui fait basculer une demi-finale. Dans les moments de pression maximale, il n'a jamais tremblé. Calme, lecture parfaite des tirs, avec une parade exceptionnelle d'ailleurs que j'invite tout le monde à voir. Il a rappelé pourquoi il est l'un des gardiens les plus fiables du continent et même bien au-delà. On dressera d'ailleurs son portrait dans l'émission du soir.
Et le grand Samuel Eto'o a été sanctionné après des incidents survenus lors du quart de finale Maroc-Cameroun. Une décision qui a fait beaucoup réagir. Que se passe-t-il exactement avec lui?
Oui, la CAF a frappé fort en infligeant à Samuel Eto'o 4 matchs de suspension et une amende, une sanction qui concerne son comportement lors du quart de finale du Maroc face au Cameroun et qui a immédiatement provoqué une onde de choc sur le continent. La FECAFOOT dénonce une décision qu'elle juge injustifiée et expéditive, évoquant une absence de motivation claire dans le communiqué de la CAF et annonce vouloir engager des recours. Cette affaire s'inscrit dans un contexte déjà très tendu, puisque depuis le début de la CAN 2025, l'arbitrage est aussi régulièrement pointé du doigt. On vous donnera plus de détails aussi dans l'émission Sports sans frontières spéciale CAN ce soir.
Merci à vous Mounir pour toutes ces précisions. Vous l'avez dit, on vous retrouve ce soir pour l'émission Sports sans frontières spéciale CAN à partir de 18h20. Quant à vous chers auditeurs, je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.